Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» avec la revue politique et parlementaire et son rédacteur en chef Arnaud Benedetti, que je salue.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons interroger nos invités sur le malaise étudiant. Rappelons que le vendredi 8 novembre dernier, un étudiant syndicaliste de 22 ans a tenté de s'immoler devant le siège du Crous à Lyon. Ce geste a suscité une immense émotion et mis en lumière la précarité subie par des milliers d'étudiants. Pour en parler avec nous, le sociologue Michel Fize, auteur de « Jeunesse à l'abandon, la construction universelle d'une exclusion mondiale » aux éditions Mimesis Sciences Sociales, également auteur d'un livre sur le mouvement des Gilets jaunes, une insurrection populaire. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec nous également, et je la remercie, Mélanie Luce, présidente du syndicat étudiant LUNEF.
Bonjour.
Et sans perdre un instant, je vais céder la parole à Arnaud Benedetti pour les premières questions.
Oh ben, ma première question sera assez simple et elle s'adressera tout de suite à Mélanie Luce. Aujourd'hui, quelles sont les causes et les déterminants du malaise qui semble monter dans l'université, selon vous ?
Alors, effectivement, vous faites bien de dire les causes, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a d'un côté la précarité étudiante, c'est-à-dire qu'on a une précarité qui ne cesse de progresser. Et cette précarité, déjà, elle a plusieurs sources. Mais donc, il y a la précarité étudiante, d'un côté, que je pourrais détailler. Et il y a aussi le fait qu'on a l'impression que on a un mépris particulièrement fort de la part du gouvernement, qu'on a une jeunesse qui n'a pas l'impression d'être entendue. C'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a eu plusieurs mobilisations étudiantes. Il n'y a pas eu l'impression d'être entendue. Et c'est aussi pour ça que là, on a des réactions qui sont très vives sur des événements qui, par le passé, n'ont pas forcément toujours amené les étudiants à se mobiliser. Donc voilà, en ce qui concerne la précarité étudiante, pour nous, elle réside sur deux choses. C'est le fait qu'on a d'un côté nos dépenses qui augmentent, comme tout le monde, hein, l'inflation, mais aussi des dépenses spécifiquement étudiantes, comme la CVEC, la cotisation vie étudiante et de campus, comme le restaurant universitaire. Et de l'autre, bah, nos aides ne suivent pas. C'est-à-dire que on a des APL qui ont été gelées, donc des aides au logement qui ont été gelées, qui ont d'abord été diminuées par Emmanuel Macron avant d'être gelées, des bourses qui ont été gelées pendant 2 ans et qui, là, ont été revalorisées très faiblement. Donc, on a une précarité qui ne cesse de progresser et pour nous, il y a vraiment besoin d'une réponse d'urgence.
Oui, mais vous parlez des mobilisations, justement, des mobilisations étudiantes. Ces mobilisations, quand même, aujourd'hui, au regard sur un plan quantitatif, restent encore relativement faibles.
Pour l'instant, on est sur un début de mobilisation. Effectivement, c'est le début d'une mobilisation où il y a
Les mobilisations précédentes.
Par contre, là, je vais effectivement être en désaccord avec vous sur la mobilisation contre la sélection. Il y a eu quand même plusieurs universités. Mmh. Il y a un grand nombre d'universités qui a été mobilisé. Et donc, quel qu'en soit le traitement médiatique justement qui a été fait, il y avait plus de 20 universités bloquées en même temps. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'étudiants mobilisés. Par contre, effectivement, il y a des choses à analyser sur ce mouvement. Le fait qu'on ait des étudiants qui aient plus été présents dans des assemblées générales que dans la mobilisation dans la rue, il y a un déplacement un peu de l'endroit où va se faire la contestation. Mais sur les campus, la contestation contre la sélection, elle a été très très importante. Et ça, pour nous, on peut pas le nier. Il y a eu une mobilisation très forte. Là, en ce moment, on est sur un début de mobilisation. Et nous, ce qui nous impressionne, c'est que on a eu une première date, donc mardi, où il y a eu une vingtaine de rassemblements qui se sont faits de manière spontanée, et ces rassemblements ont rassemblé beaucoup de monde, alors que on n'avait même pas forcément eu besoin d'avoir le temps d'aller s'adresser à l'ensemble des étudiants pour inviter à participer à ces rassemblements. Donc c'est ça qui est assez impressionnant et qui est particulier dans ce mouvement, c'est qu'il s'est beaucoup reposé sur les réseaux sociaux notamment.
Alors Michel Fize, vous avez, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, écrit un ouvrage « Jeunesse à l'abandon, la construction universelle d'une exclusion sociale ». Et est-ce que vous avez traité vous aussi de ce malaise étudiant ? Est-ce que vous avez perçu une spécificité de la jeunesse étudiante et des difficultés qu'elle rencontre ?
Alors, cette situation, il faut d'abord rappeler qu'elle existe depuis, au bas mot, 25 ans.
Ouais.
Donc, il n'y a absolument rien de nouveau, sauf que c'est pire qu'il y a 25 ans. Voilà. Donc, il y a une différence de degré entre des constats qu'on faisait déjà au moment de la consultation nationale des jeunes en 1994, après la contestation du CIP. Donc comme j'étais dans cette affaire, j'ai vu un peu de l'intérieur et j'ai vu ce que les jeunes disaient et dans le questionnaire qui leur avait été adressé et dans le courrier séparé qu'ils nous avaient envoyé. Donc tout était déjà là. Alors d'ailleurs, je m'étonne quand même qu'il y ait un mot qui n'ait pas été prononcé, parce que pire que la précarité, il y a la pauvreté. Voilà. Et pour moi, ça va ensemble. Il faut quand même rappeler que la catégorie étudiante, si on la considère comme une catégorie sociale comme une autre, ce que je fais, c'est la catégorie qui s'est la plus appauvrie depuis 25 ans. Voilà. Donc, c'est les plus pauvres parmi les pauvres. Voilà. Alors, on cite le chiffre de 20%, qui, à mon avis, est un chiffre qu'on citait déjà il y a 25 ans. Donc, à mon sens, il est probablement sous-évalué par rapport à ce qu'il doit être aujourd'hui. Moi, je parierais plutôt pour 30 que pour 20. Donc, ça dit l'ampleur. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, être sous le seuil de pauvreté, c'est être au-dessous de 900 euros à peu près par mois. Donc, il suffit de faire un calcul. Hein. Bon, le revenu moyen, je crois, d'un étudiant, c'est pas tout à fait 900 euros. Vous avez un loyer moyen à Paris qui est de 800 euros. Ben, voyez ce qui reste à un étudiant pour vivre. 100 euros. Voilà. 100 euros. Et je dirais pour les mieux lotis, parce que certains sont déjà en position déficitaire au début du mois. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas un malaise. Hein, c'est une contestation d'une situation qui est démocratiquement pour le moins anormale.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, par exemple, au regard d'un certain nombre, là aussi, de grandes mobilisations d'il y a 20 ans ou 30 ans, et je ne parle pas même d'il y a 40 ans, est-ce que finalement, le monde étudiant n'est-il pas beaucoup plus individualisé qu'il ne le fut, je pense, aux années 60 ou aux années 70? Est-ce qu'il y a un changement aussi de culture dans la relation à la contestation et même de relation à la politique?
Ah ben oui, mais ça c'est un constat qu'on peut faire pour toute la société. Nous sommes dans une société individualiste, donc pour le coup, où le seul, je dirais, caractère collectif se retrouve dans les catégories professionnelles. Donc c'est l'identité qui permet d'avoir encore un semblant de collectif. Hein, d'ailleurs, on voit bien que il y a quand même des réflexes qu'on aurait appelés en d'autres temps corporatistes. Hein. Chacun défend son dossier, voilà ce qu'on peut comprendre, mais en oubliant quand même que ces dossiers sont tellement identiques entre les gilets jaunes d'un côté, les infirmières de l'autre, les enseignants, les étudiants, on pourra ajouter aussi les lycéens qui doivent aussi pour beaucoup travailler dans les dernières années pour survivre, que on peut regretter qu'il n'y ait pas ce réflexe collectif. Savez-moi, par exemple, quand j'entends un syndicat étudiant, mais pas celui qui est à mes côtés, un autre dire comme ça, on n'ira pas à la grève du 5 décembre, ça me choque. Quand même, ça me choque parce que je crois qu'on peut mener son combat, effectivement, qui est sur des questions très précises, hein, très pointues, hein, correspondant donc à la condition des étudiants, sans négliger le collectif. Hein, le collectif. Alors, ceci étant, je pense que bon, le 5 décembre va quand même nous amener à au moins une coagulation conjoncturelle, ponctuelle, hein, des luttes, comme l'on dit. Bon, après on verra ce qui se passe. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la grande faiblesse de toutes ces catégories, c'est l'individualisme. Ça, c'est voilà. On baigne dedans, et tout nous attire vers effectivement ça, voilà. Alors, je crois qu'il faudrait faire le mariage de l'individualisme et du collectif. Voilà, mais c'est pas facile.
Alors, Mélanie Luce, on évoquait à l'instant la précarité, aussi la pauvreté, et le fait qu'une partie des étudiants sont touchés par ces phénomènes, mais finalement, on atteint chaque année un nombre record d'étudiants, et chaque année, il y a de plus en plus d'étudiants, je crois qu'on est à 2 700 000, et 6 sur 10 à peu près sont à l'université. Est-ce que finalement, l'université ne reproduit pas en son sein les grandes inégalités subies par la société française? Et finalement, il y a des étudiants pauvres, comme il y a des travailleurs pauvres, et comme il y a de plus en plus d'étudiants, bah, la pauvreté, elle augmente aussi à l'université.
Alors, oui et non, et je voudrais pouvoir réagir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. Souvent, on a tendance justement à pointer du doigt les jeunes en disant ce sont les jeunes qui sont individualistes, ce sont les jeunes qui font qu'aujourd'hui la société change et n'a plus de vocation collective. Nous, c'est pas le sentiment qu'on a, effectivement.
Enfin, Pierre Bourdieu disait que la jeunesse n'était qu'un mot, donc il faut pas non plus généraliser.
Oui, on peut citer Bourdieu, on peut en citer d'autres qui diront que justement, s'il y a des différences, s'il y a bien sûr des situations différentes dans la jeunesse, il y a quand même des aspirations qui sont communes et donc il faut quand même la traiter aussi comme un tout. Et justement, aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait, c'est que la jeunesse, justement, les jeunes, de manière générale, il y a effectivement une volonté de pouvoir s'en sortir, en fait. C'est pour ça qu'on a un individualisme qui progresse, c'est parce que il y a une vraie question de, quand on est à l'université, qu'est-ce qu'on va avoir après? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir avoir un emploi? Mais par contre, la vocation collective est toujours là. Et par contre, effectivement, pour répondre à la question que vous me posiez, on a une situation de précarité et de pauvreté qui est très importante. Après, moi, effectivement, j'ai un peu de problème avec le chiffre de 20% parce qu'en réalité, aucune des aides sociales touchées par les étudiants n'est supérieure au seuil de pauvreté. Donc un étudiant ne reçoit en aide sociale jamais plus du seuil de pauvreté, puisque la bourse maximum est donc de 561 € par mois. Le seuil de pauvreté, si on prend celui de l'INSEE, donc à 60%, il est à 1060 €. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Et en réalité, donc après, on va se baser sur quoi? Sur les aides des parents. Et donc c'est là où moi j'aurais quelque chose à dire. C'est pour ça quand je vous dis oui et non, c'est qu'en réalité la spécificité des étudiants, c'est qu'ils sont dans un trou en fait de la protection sociale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on nous dit que légalement on ne dépend pas de nos parents et donc on est autonome.
Plus. On est juridiquement censé plus à partir de 18 ans.
Ouais. Effectivement, on est censé ne plus dépendre de nos parents, mais en réalité socialement, il n'y a pas de majorité sociale pour les étudiants, c'est-à-dire que socialement, on est considéré comme faisant partie de la vie fiscale de nos parents pendant longtemps. Nos bourses sont calculées selon les revenus de nos parents. On nous demande un garant, par exemple, quand on veut faire se loger, qui doit être nos parents souvent. Même s'il y a des dispositifs qui ont été mis en place, de manière générale, en fait, on est considéré comme toujours des enfants. Et c'est ça le problème, c'est qu'en réalité, l'autonomie des jeunes a progressé. On a de plus en plus de jeunes qui, en réalité, ne sont indépendants de leurs parents, mais cette autonomie n'est pas reconnue. Donc il n'y a pas d'accompagnement social, et c'est ça aussi le problème. Vous allez vous retrouver avec des jeunes qui sont dans une très grande précarité, une très grande pauvreté, mais dont les parents seront en réalité aisés. Et donc, où il va y avoir un décalage, et donc on reproduira pas les inégalités de la société dans l'université. Après, d'un autre côté, effectivement, il y a une reproduction sociale qui reste forte, et donc on a aujourd'hui, même s'il y a plus d'étudiants, il y a peu d'enfants d'ouvriers et d'enfants d'employés dans les universités. On est sur 3% d'enfants d'ouvriers en doctorat quand même, donc des chiffres qui sont 4% pardon, donc des chiffres qui sont quand même très très bas qui sont largement insuffisants. Donc la question, c'est aussi comment on sort de tout ça. Et il fallait à la fois effectivement accompagner la croissance démographique, mais il faut aussi mettre en place des mesures, puisque le sujet, il n'est pas uniquement d'accueillir tous les jeunes qui arrivent à l'université, il est aussi d'accompagner financièrement les étudiants qui arrivent à l'université. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Pardon, Benedetti.
Non, juste une question pour revenir sur les mobilisations. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que, malgré tout, le syndicalisme étudiant n'est plus dans l'état dans lequel il était il y a 20 ou 30 ans? Est-ce que vous ne vous interrogez pas aussi sur les stratégies politiques qui sont les vôtres? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas des stratégies politiques parfois qui peuvent éventuellement aussi faire fuir des étudiants qui seraient susceptibles d'avoir un engagement citoyen dans un syndicat?
De quelle stratégie politique vous
parlez? Je pense que la stratégie qui consiste, par exemple, à empêcher, je parle pas de l'UNEF en général, mais d'empêcher, par exemple, la tenue d'une conférence d'un ancien président de la République à Lille, est-ce que vous considérez que c'est une stratégie qui est susceptible de faire avancer votre cause?
Mais donc, c'est pour ça qu'il faut séparer les choses. Attention, il y a d'un côté des actions qui sont faites par une partie des étudiants, et ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu une partie des étudiants qui a eu des actions, certains types d'actions. Après, il y a les actions des syndicats étudiants. Donc, je pense qu'il faut vraiment être très précautionneux quand on parle de ça. Je pense pas qu'on puisse associer l'UNEF à ces actions-là. Par contre, moi, je suis pas là non plus pour pointer du doigt les actions qui sont faites par
Mais dans l'opinion publique, c'est l'image qui ressort dans l'opinion publique.
Dans l'opinion publique, si l'image qui ressort, c'est que c'est l'UNEF, c'est un mensonge. Aujourd'hui, l'UNEF n'est pas celle qui empêche la tenue de conférences. Par contre, on n'est pas là non plus pour pointer du doigt ce qu'ils font. Il y a des actions qui sont choisies par la mobilisation, qui sont choisies par des étudiants réunis en assemblée générale. Et dans ce cas-là, je pense pas que le sujet il soit tellement de pointer du doigt ces étudiants-là, mais plus de parler justement du vrai sujet de fond qui est la précarité étudiante. Et pour le coup, je pense que là, Si vous voulez, vous me demandez est-ce que le syndicalisme étudiant est dans la même forme qu'avant. Mais en fait, est-ce que le syndicalisme, de manière générale, est dans la même forme qu'avant ? C'est peut-être plus ça la question. La question, en réalité, elle est bien plus large. Et donc, je pense que c'est très facile, encore une fois, de pointer du doigt les jeunes qui, du coup, s'engageraient pas assez dans des syndicats, les syndicats étudiants qui seraient, du coup, pas assez bons dans leur stratégie, alors qu'en réalité, le problématique, elle est bien plus globale et elle repose à la fois, effectivement, sur la manière dont nous, on doit réfléchir, s'adapter aux différentes forme d'engagement et aux mutations de la société, mais aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on a face à nous un gouvernement et des gouvernements de manière générale qui, au fur et à mesure, n'ont pas fait une place importante au syndicat et qui fait que du coup, effectivement, ça donne pas envie à des gens d'aller s'engager dans un syndicat s'ils ne sont pas convaincus que cette organisation va leur permettre de se faire entendre. Et c'est là qu'il faut interroger les méthodes du gouvernement. Si on a des gens qui décident de se mobiliser tout seuls, qui décident d'utiliser des modes d'action qui ne sont pas forcément les modes d'action syndicaux, c'est aussi parce qu'il y a une responsabilité gouvernementale dans la manière dont sont traitées les organisations qui sont les corps intermédiaires. Et aujourd'hui, ils peuvent pas se cacher derrière une communication qui est de dire on parle avec les organisations. Ce n'est pas le cas. On n'est pas assez écouté aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous sur les bases syndicales qui aujourd'hui se retrouvent partout. Mais néanmoins, ça devrait quand même vous conduire à une réflexion également, de la même manière que
pour une réflexion.
Pourquoi finalement aujourd'hui vous n'arrivez pas à attirer des adhérents ? Pourquoi vous avez quand même du mal à mobiliser malgré votre volonté de mobiliser sur le terrain ? Ce sont des questions aujourd'hui qui se posent en termes d'engagement et d'offres politiques aussi.
Michel Fils voulait réagir depuis tout à l'heure
Mélanie a raison de souligner que la situation des syndicats étudiants et d'ailleurs aussi lycéens s'inscrit dans un contexte général d'affaiblissement des corps intermédiaires, d'ailleurs souhaité aussi par le pouvoir politique ou aggravé par les positionnements politiques. Mais je crois surtout que le principal obstacle, c'est que les syndicats se heurtent, moi ce que j'appellerais, à la dictature des opinions personnelles, telles qu'elles peuvent être relayées par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, maintenant, c'est tout le monde, il a raison. Moi, j'ai raison comme tous les autres. Là.
Je tweete, donc
je suis aussi important que la présidente de l'UNEF, etc. C'est-à-dire que tout est égalisé. Voilà. Donc, c'est difficile d'aspirer vers... Bon, on n'est pas nécessairement, parce qu'on est président d'un syndicat, dans une position totalitaire où on va, comme au temps, effectivement, des soviets imposer. Mais quand même, effectivement, l'individu roi, ça existe. L'individu roi, ça existe. Donc l'individu, il veut pas obéir. Alors, et surtout pas être dans l'engagement. L'engagement, vous savez, par rapport au militantisme, j'ai toujours, le militantisme, c'était l'engagement d'une vie. Aujourd'hui, l'engagement, c'est un engagement ponctuel, provisoire, voilà, pour un coup et pas pour plusieurs coups, et avec des bénéfices que l'on veut voir tout de suite et pas dans 50 ans.
En même temps, les réseaux sociaux permettent des mobilisations.
Bien sûr.
De nouvelles formes de mobilisation.
Toutes les grandes mobilisations depuis le mouvement des indignés, les printemps arabes, tout ça, c'est...
Ou les gilets jaunes.
Voilà, et les gilets jaunes. Mais bon, c'est pas les uns contre les autres. Je pense que il faut s'appuyer aussi sur ces nouvelles possibilités que donnent les réseaux sociaux d'avoir des mobilisations de grande ampleur.
Mais du coup, je pense qu'en fait, il faut avoir le vrai débat. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que vous me pointez du doigt des situations qui, en réalité, je pense, ne sont pas les problèmes qu'il faut pointer du doigt. Notamment, vous me dites qu'on n'attirerait pas des adhérents ou qu'on aurait du mal à mobiliser. C'est là-dessus où je pense qu'il y a effectivement des difficultés rencontrées par les syndicats, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut analyser, c'est pas ça, puisque pour le coup, en termes d'adhérents, il n'y a pas de problème. En termes de mobilisation, encore une fois, vous pouvez continuer, si vous voulez, à analyser la mobilisation contre la sélection comme une mobilisation qui n'aurait pas été assez importante. Mais vous serez dans l'erreur. Vous serez dans l'erreur de ce qui a été vécu sur les campus. Moi, j'étais sur les campus avec les étudiants. J'étais dans les assemblées générales. Et on avait des assemblées générales qui rassemblaient plus de 1000 personnes. Ce n'était pas arrivé pendant la loi travail. Le dernier mouvement qui a été présenté comme un mouvement d'ampleur. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion à faire. Enfin, faut que chacun puisse être en capacité aussi de s'heurter à ses... ces préjugés et la manière dont les choses ont été traitées. Je pense que cette mobilisation, elle est aujourd'hui, elle n'est pas considérée à la hauteur de ce qu'elle devrait. Elle a été très forte, et justement le fait qu'on n'ait pas eu de réponse du gouvernement en face, ça a un impact aujourd'hui sur les étudiants. Et par contre, oui, vous dites, il faut s'interroger, on doit s'interroger. C'est vrai, là où on doit s'interroger, c'est notamment sur le fait que, effectivement, même si cette mobilisation, elle a été importante, elle est partie beaucoup plus tard que ce qu'a été le cas par le passé. C'est-à-dire que nous, l'UNEF, on a appelé à des mobilisations dès le mois de novembre. En réalité, cette mobilisation, on l'a fait grossir à partir du mois de février. Elle a vraiment pris de l'ampleur fin mars. Donc ça a pris beaucoup plus longtemps. Et c'est effectivement, ça, c'est des sujets sur lesquels, bah, nous, on s'interroge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le thème de notre congrès, on fait une journée où on parle. On va parler de la question de l'engagement justement pour justement se pencher sur ce sujet. Après, je pense que effectivement la solution, elle vient à la fois des organisations syndicales. C'est pour ça que nous en ce moment, on se pose beaucoup sur la question de comment on permet à chacun d'avoir une place plus importante aussi dans l'organisation, puisque c'est aussi ça, les difficultés qui peuvent être rencontrées par un syndicat, c'est comment chacun peut avoir son expression à lui, alors qu'il y a aussi des débats internes dans le syndicat qui sont parfois beaucoup plus vastes. Mais il y a aussi effectivement le fait, et ce qui peut être dit là, c'est qu'il y a une volonté d'avoir des victoires concrètes tout de suite, et ça, ça dépend aussi de ce qu'on a en face. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut pas y a bien sûr un vrai sujet de vraies questions que les syndicats de manière générale se posent, que nous on se pose en tant que syndicat étudiant, des avancées à faire. Il y a une refonte importante du syndicalisme étudiant qui doit se faire, un renouvellement. Et d'ailleurs j'appelais déjà ce renouvellement de mes voeux il y a quelques mois dans une tribune que nous avons rédigée. Mais par contre ça n'empêche pas que aujourd'hui le sujet, c'est qu'on a quand même des étudiants qui se mobilisent fortement sur la précarité étudiante, et je pense qu'on devrait plus s'attarder là-dessus que sur l'état des organisations en tant que telles, qui est un autre débat, et où là, je pense que les bases sont pas les bonnes.
Alors, on va continuer notre débat dans la deuxième partie de l'émission. On fait une courte pause. Vous êtes sur Radio Orient, et nous revenons dans un instant.
Et si on en parlait du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», deuxième partie avec Arnaud Benedetti de la revue Politique et Parlementaire, et nos invités pour parler du malaise étudiant, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, et Michel Fies, sociologue et auteur notamment d'un ouvrage « Jeunesse à l'abandon ». La construction universelle d'une exclusion sociale aux éditions Mimesis Sciences Sociales. Alors peut-être reprenons le cours de notre émission sur les sujets de précarité. Mélanie Luce, vous avez eu des échanges, vous avez été reçue par le gouvernement et il y a eu des annonces qui ont été faites. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre réaction par rapport à ces échanges et à ces annonces?
Alors effectivement, nous on a pu rencontrer Gabriel Attal puis Frédéric Vidal au sujet de la précarité étudiante, mais malheureusement on est largement déçus en fait du résultat de ces rendez-vous, puisque ce qu'a pu annoncer Frédéric Vidal récemment, c'est donc à la fois certaines mesures, je vais pas toutes les citer, etc., mais qui sont peut-être certes importantes, hein, mais qui sont largement insuffisantes pour répondre à la précarité étudiante. Concrètement, il y a une revendication qui est notre revendication la plus importante, qui est portée par l'intégralité des syndicats étudiants, qui est la revalorisation des bourses, qui n'est pas sur la table. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les mesures qui ont été annoncées, ce sont des mesures qui ne nécessitent pas de financement particulier, particulièrement important. Et donc, on a un gouvernement qui veut mettre en place des annonces, mais qui veut pas mettre la main à la poche en ce qui concerne les étudiants. Donc nous, on demande qu'il y ait un choix budgétaire qui soit fait pour lutter contre la précarité étudiante. Aujourd'hui, le gouvernement refuse ce choix. S'il revalorise pas les bourses, c'est parce la réponse qu'on a eue, c'est que il y aurait pas le budget de revaloriser les bourses. Mais pourtant, il y a eu le budget de mettre 1 milliard d'euros sur le service national universel. Donc concrètement, le budget, c'est un choix. Et là, il y a un choix politique qui est fait de ne pas investir sur les étudiants, et ça pour nous c'est un gros problème, et c'est pour ça qu'on appelle à des assemblées générales, qu'on appelle effectivement au 5 décembre et que on s'est réunis entre organisations syndicales pour discuter de comment on peut s'organiser.
Michel Fies, des perspectives?
Moi je pense que bon, là il y a par rapport à l'augmentation encore une fois du montant des bourses, et je crois aussi à une augmentation nécessaire du nombre de bénéficiaires des bourses, on est quand même là face à une revendication modeste, hein, parce que je me souviens d'un temps pas si lointain où l'UNEF entre autres plaidait pour une allocation étudiant.
On le fait toujours, hein, voilà. Bien sûr. Une allocation d'autonomie.
Voilà. Et je pense que c'est quand même la mesure principale. Moi j'appellerais ça d'ailleurs peut-être plutôt un revenu minimum étudiant, qu'on pourrait par exemple fixer à 1 000 euros, puisque c'est ce qu'on promet aux futurs retraités. Donc peut-être que avant les retraités, on pourrait aussi imaginer. Je pense que 1000
euros. Pas avant, mais en
voilà,
même temps.
Bon, 1000 euros, c'est pas 1000 euros, c'est pas le paradis, hein. Mais voilà, si tout le monde était assuré au moins d'avoir 1000 euros pour se débrouiller, ce serait pas une mauvaise chose. La deuxième chose, mais ça c'est quelque chose que je plaide depuis précisément 25 ans. Bon, quand je vois effectivement que la jeunesse, elle est managée politiquement par un petit secrétariat d'État, hein, alors que, à mon sens, il faudrait définir un grand ministère de la jeunesse, que j'avais appelé aussi, et de la solidarité entre générations, voilà, qui permettrait d'une manière transversale de réunir tout ce qui empoisonne la vie des étudiants, et non pas le saucissonner pour avoir 50 interlocuteurs, en fait une sorte de ministère guichet unique, voilà, qui permettrait de définir un plan d'urgence, tout le domaine. Parce que quand même, imaginez-vous que le logement absorbe à peu près 70% hein, des dépenses des étudiants. Ça, c'est quand même complètement anormal. Hein. Imaginez encore que la moitié. Alors là aussi, hein, c'est comme tout à l'heure pour les 20%
alors,
des
c'est vrai
pauvres.
Aussi pour le reste de la population, oui, puisque vrai. Malheureusement, notamment dans les grandes agglomérations, la flambée des loyers ponctionne les étudiants et aussi les familles. Le budget
oui, mais encore une fois, il s'agit
moyen
pas...
loyer, logement augmente.
Non, mais il ne s'agit pas d'opposer les uns les autres. Bien sûr que le loyer est une infortune pour tout le monde. Hein, mais encore une fois, on pourrait imaginer, je crois que ça avait d'ailleurs été imaginé, un plan de développement des résidences universitaires. Hein, il n'y en a pas suffisamment. Voilà. On pourrait imaginer, moi j'avais dit, il faudrait peut-être réserver des logements étudiants dans le parc social immobilier. Voilà. Qui est des, alors, on va employer le mauvais mot, des quotas. Voilà. Qui est des quotas réservés, avec évidemment des loyers minorés. Voilà. Où chacun serait assuré d'avoir un toit. C'est pas normal d'être obligé d'aller pratiquement dans le privé, hein. Avec des salaires, enfin des loyers demandés qui sont vraiment,
avec des garanties qui sont demandées systématiquement, et si on n'a pas des parents derrière, c'est vrai que c'est
voilà parce que la chose que je voulais dire, parce que je crois que j'allais l'oublier, là aussi on dit la moitié des étudiants travaillent, mais ça on le disait déjà il y a 15 ans. Donc c'est comme pour la pauvreté. Moi, à mon avis, il doit y avoir plus de la moitié des étudiants qui travaillent.
Hein. Oui,
il faudrait refaire un peu les comptes.
Justement, aujourd'hui, en fait, il y a le salariat étudiant et il y a en plus les étudiants qui sont travailleurs des plateformes. Et pour nous, justement, là, on attend les prochains chiffres officiels. Mais tant qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'on a plein d'étudiants qui n'ont pas de contrat salarié, mais qui sont en réalité travailleurs des plateformes, donc des plateformes, enfin des coursiers à vélo, etc. Il y a un vrai sujet d'un travail étudiant qui n'est pas pris en compte et qui est d'autant plus précaire. Encore plus précaire que celui qui était en cours avant. Moi, je voulais juste réagir. Alors, bien sûr, effectivement, nous, notre revendication sur le long terme, c'est une allocation d'autonomie. Donc, c'est une aide universelle qui serait d'un montant suffisant pour vivre. Donc, c'est effectivement qui doit correspondre au seuil de pauvreté et surtout qui correspondrait, en fait, aux besoins des étudiants. Donc, qui serait pas calculé sur les revenus des parents. Et c'est ça notre sujet, qui garantit l'autonomie des jeunes. Une allocation d'autonomie, ça nécessite, en fait, de remettre totalement à plat le système d'aide sociale. Ça nécessite pour nous d'aller récupérer notamment la demi-part fiscale. Aujourd'hui, nos parents sont exonérés d'impôts parce que nous faisons des études dans le supérieur et nous pensons que cet argent il devrait revenir aux étudiants, puisqu'encore une fois, ça montre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas considérés comme autonomes puisque c'est à leurs parents qu'on donne
c'est
de l'argent.
C'est l'avantage
et pas
fiscal dont bénéficient les parents. Oui.
C'est ça. Et donc, nous, on pense que l'argent qui est utilisé pour de ces exonérations devrait être utilisé dans les bourses. Ça permettrait déjà de doubler le budget des bourses actuelles. Donc au fur et à mesure, on peut récupérer des financements. Par contre, ça nécessite un vrai projet. C'est un vrai projet de société. Et donc, c'est un vrai projet de long terme. Quand on voit que là, le ministère se contente de 46 millions d'euros de refonte des aides sociales, donc c'est quand même 1,1% de revalorisation des bourses qui a été fait cette année. Donc une revalorisation en dessous de l'inflation d'un montant qui en réalité est une goutte d'eau dans le budget de l'État de manière générale. On voit bien qu'ils sont loin de vouloir accepter enfin, en tout cas, ils sont très loin
de faire un effort significatif.
Ils sont très loin de nos revendications, et c'est pour ça que pour nous, il y a le long terme, et sur le long terme, effectivement, on demande une allocation d'autonomie, et il y a le court terme, et là, c'est pour ça qu'il y a vraiment urgence. Et dans l'urgence, il faut revaloriser les bourses, et c'est ça que nous on dit, on tire la sonnette d'alarme, on peut pas continuer à avancer dans cette situation sans revalorisation. Je rappelle quand même que ça fait, en fait, des années qu'il n'y a pas eu de vraie revalorisation. En 2014, on a eu une revalorisation, mais qui était en réalité minime, puisque on a une réforme qui s'est concentrée sur l'augmentation des bourses bourses pour les plus précaires et la création de bourses pour ceux qui étaient les plus en difficulté, donc qui étaient à la limite. Donc c'était positif, mais il n'y avait pas de revalorisation. En 2010, il y a eu un 10e mois de bourse, mais il n'y a pas eu de revalorisation. Sous Hollande, il y a eu une revalorisation 50 centimes. Donc là, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu de vraie revalorisation des bourses. Donc les étudiants en pâtissent réellement, et c'est pour ça qu'il y a urgence. Le fait que le gouvernement ne veuille pas entendre ça, pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai mépris en fait des étudiants, c'est un vrai mépris de la précarité étudiante. C'est pour ça que nous, on n'est pas du tout satisfaits de ce qui a pu être dit par Frédéric Vidal.
Mais je pense encore une fois que la revalorisation des bourses ne suffira pas, hein, et loin s'en faut. Bon, si on considère qu'aujourd'hui la bourse est à 550 €, bon, il y a que dans les rêves qu'on peut imaginer, par exemple, de la doubler. Ce qui permettrait d'arriver à 1 000 €. Donc effectivement, si on obtient 4 ou 5, même 10%, allez, 10% d'augmentation, bah vous restez
temps,
toujours
en dessous.
Du fait
de l'augmentation des effectifs, le nombre des boursiers augmente aussi. Du fait de l'augmentation des effectifs.
Oui, donc le budget augmente. Nous, on demande une revalorisation de 20% des bourses.
Juste une question, que je voudrais poser à tous les deux. Bon, parce que quand même, ces problèmes ne sont pas fondamentalement nouveaux. Vous avez rappelé, je veux dire, la faible revalorisation sous François Hollande, donc c'est pas un sujet, c'est un sujet récurrent. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, frappé au sceau de la Macronie et d'un logiciel de transformation, pour reprendre la sémantique macronienne, est aujourd'hui un gouvernement qui est plus sourd que ses prédécesseurs aux revendications des étudiants, ou est-ce que finalement on est dans une continuité politique qui, quels que soient les gouvernements aujourd'hui, est disons un élément récurrent finalement de la vie politique et sociale française vis-à-vis des universités, vis-à-vis des étudiants.
Il y a quand même une rupture entre Monsieur Hollande et Monsieur Macron.
Mais peut-être plus sémantique.
Monsieur Hollande avait quand même affiché la priorité jeunesse. D'ailleurs, oui. on dit toujours que il voulait être jugé sur effectivement l'inversion de la courbe du chômage. On a oublié qu'il s'était fixé un deuxième objectif. Oui. Il voulait que les jeunes vivent mieux à la fin de son quinquennat qu'au début. Bon, alors il avait quand même affiché la priorité jeunesse. Bon, ce qui a quand même donné lieu à un certain nombre. Alors jeunesse, pas uniquement étudiante, jeunesse en général.
L'éducation,
hein. Voilà,
l'éducation jeunesse.
Les contrats d'avenir, les emplois d'avenir, les contrats de génération, etc. Voilà. Là, effectivement, Monsieur Macron, lui, il a rien affiché du tout. Donc, de toute façon, il s'est pas engagé. Voilà. Et donc.
Ni dans les objectifs, ni dans les faits. Alors, si je peux vous compléter, parce que je disais qu'il y avait pas
à faire des réformes aussi sur l'université, Mélanie.
Alors, c'est pas les mêmes réformes.
Je disais
que la revalorisation était minime, c'est vrai. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ont été faites, et c'est ça en fait le problème, c'est que sous Sarkozy, donc il y a eu le 10e mois de bourse. Ça, on s'est beaucoup battu pour l'avoir. Quand on l'a obtenu, c'était une vraie revalorisation, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Sous Hollande, d'abord, il y a eu donc 200 millions d'euros qui ont été mis dans les bourses, avec la création de l'échelon 7 de bourse, donc 100 € de plus par mois pour les plus précaires, l'échelon 0 bis. Et ensuite, suite à la loi travail, il y a 500 millions d'euros qui ont été débloqués. Donc que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, il y a vraiment des fonds qui ont été mis au final. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a tel mépris que après une semaine où justement on a quand même une contestation forte sur les réseaux sociaux, des étudiants qui commencent à se mobiliser, etc. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas mettre la main au portefeuille. Concrètement, ils ne veulent pas mettre d'argent. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pas une situation qu'on aurait eu par le passé. Et on a un gouvernement qui veut faire des réformes, oui, mais qui veut sélectionner à l'entrée de l'université, qui a concrètement fait en sorte qu'aujourd'hui on a des milliers de jeunes qui n'ont pas une inscription dans la filière de leur choix. On s'est quand même retrouvé le 19 juillet cette année avec 50 000 jeunes qui n'ont pas eu de réponse sur Parcoursup et donc qui ont dû se baser sur la phase complémentaire de Parcoursup, donc qui ont en fait demandé des formations qui n'étaient pas les formations qu'ils souhaitaient à l'origine, donc qui ne correspondent pas à leur choix. Donc on a une augmentation du nombre d'étudiants qui se retrouvent dans des filières par défaut. Ça n'augmente pas la réussite. Et en plus, ils ont vendu cette sélection sous le mythe du fait que c'était juste une forme d'orientation et que ça permettrait la réussite des étudiants. Ça, c'est encore plus problématique, parce que en plus d'avoir un gouvernement qui en réalité n'a pas pour priorité de sortir les étudiants des conditions de vie dans lesquelles ils sont, eh ben on a un gouvernement qui n'assume pas en fait sa politique. Et nous, c'est pour nous, il y a une hypocrisie dans la manière dont a été traitée la sélection. Ils auraient dû pouvoir assumer dès le départ qu'il y avait une sélection. D'ailleurs, maintenant, quand vous posez la question à Frédéric Vidal, elle utilise le mot sélection. Il y a quand même un petit problème quand 2 ans après on utilise le mot sélection alors qu'il y a pas.
Oui, parce que vous savez très bien que le mot sélection est un chiffon rouge que les politiques évitent vraisemblablement d'agiter pour tout simplement calmer des mobilisations qui pourraient venir les déstabiliser. Mais quand même, sur la question de la sélection aujourd'hui, la sélection, de toute façon, le problème aujourd'hui de l'orientation, c'est un sujet qui se pose quand même dans un certain nombre de filières universitaires. Ne pensez-vous pas quand même qu'un des moyens aussi de permettre une meilleure implication des jeunes dans l'université, c'est éventuellement de jouer sur l'orientation également,
non, je pense
sur le levier de l'orientation.
Je pense
est-ce qu'il n'y a quand même pas des filières qui sont des impasses à un moment donné?
Non,
aussi.
Je pense qu'aujourd'hui, le problème que rencontrent les jeunes, c'est effectivement il y a besoin d'améliorer l'orientation, mais du coup, il y a une différence entre orientation et sélection. Il faut informer les jeunes sur ce qui est vraiment la filière dans laquelle ils s'engagent et qu'ils soient plus informés et accompagnés pour choisir ce qu'ils vont faire plus tard. Il y a une vraie différence entre accompagner les étudiants dans le choix de leur filière et leur empêcher d'accéder à la filière de leur choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème que rencontrent les universités, c'est que et ça, c'est le résultat de plusieurs gouvernements, il n'y a pas eu d'investissement suffisant pour accueillir les jeunes, et donc maintenant on nous dit que la seule solution c'est de sélectionner. Non, encore une fois, il fallait mettre la main au portefeuille, il fallait donner de l'argent aux universités plutôt qu'en donner au service national universel, créer des places et investir vraiment sur des personnels d'orientation qui sont formés pour ça, pour accompagner les jeunes. C'est ça le sujet aujourd'hui, et si on veut vraiment aider les étudiants et les jeunes, c'est pour nous, c'est ça la solution. Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des refontes pédagogiques à faire, parce qu'effectivement il y a un sujet sur la réussite étudiante, ça réside à la fois sur les conditions de vie et à la fois sur le fait de réformer la pédagogie de nos universités. On a fait beaucoup de propositions là-dessus, aucune n'a été retenue, ils ont préféré sélectionner, donc voilà.
Juste une question.
Alors, on va libérer juste Mélanie Luce, qu'on remercie pour sa présence, parce qu'elle a d'autres obligations médiatiques, mais merci d'être passée par les studios de Radio Orient aujourd'hui. On garde Michel Fils, on a encore quelques minutes de débat. Et peut-être Arnaud Benedetti, poursuivre un petit peu sur l'orientation, qui est quand même un sujet un peu crucial.
Mais sur les problèmes aujourd'hui que rencontre l'université, je m'adresse aux sociologues. In fine, aujourd'hui, on est en train de payer, entre guillemets, en tout cas, de subir une massification indéniable, une démocratisation indéniable du système universitaire. C'est aujourd'hui ce processus qui fait que on a du mal, vraisemblablement, aussi à répondre aux demandes en matière sociale ou aux demandes en matière d'orientation.
Ben, on est toujours dans le scénario de l'impréparation politique. Aujourd'hui, effectivement, on est face à une explosion universitaire, comme on a pu parler d'une explosion scolaire dans l'enseignement secondaire dans les années 60. Voilà. Et on a vu qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a massifié les écoles secondaires qu'on a démocratisé l'enseignement et les réussites. Donc on est effectivement au niveau de l'université exactement dans la même situation, donc avec le même défi. Donc c'est vrai que la tentation, ça peut être, bon ben, il y a trop d'étudiants, donc on sélectionne, voilà. Ou au contraire, l'autre voie, c'est... Ah ben il y a beaucoup d'étudiants, c'est peut-être une chance pour ce pays, on va pratiquer des orientations positives, voilà, des évaluations qui doivent permettre aux uns et aux autres de se trouver toujours quelque part et non pas dans l'exclusion comme il y a l'exclusion sociale par ailleurs. Voilà, mais il est évident qu'on a tellement de retard par rapport à la gestion de ce dossier comme de tous les autres quand on regarde la société. Tous les dossiers explosent en même temps.
C'est vrai, mais
à défaut d'avoir été traité,
ça veut dire que le politique
en même
subit.
Temps,
ah ben le politique, oui, subit.
En même temps, en quelques décennies, on est passé de à peu près 50% d'une classe d'âge qui pouvait aller à l'université parce qu'elle avait le baccalauréat, à un objectif atteint de 80% de bacheliers, qui a engendré une explosion. Une nouvelle massification, je dirais, une deuxième étape de massification après celle des années 70, et beaucoup de jeunes lycéens arrivant à l'université, mais finalement, souvent, y rencontrant la précarité, l'échec, et à la fin, l'absence de diplôme, et retournant sur le monde du travail, après avoir passé quelques années à l'université, dans les couloirs, peut-être ailleurs appris un certain nombre de choses, mais pas forcément la capacité à rentrer sur le monde du travail.
J'ai écrit récemment un livre intitulé « L'école à la ramasse », mais on pourrait aussi tout aussi bien parler de l'université à la ramasse, où je montre qu'effectivement, il faudrait savoir faire table rase de tout ce système. Et par exemple, mais ce que disait déjà Jaurès il y a fort longtemps, recomposer les niveaux d'instruction. Avoir encore un enseignement primaire, un enseignement secondaire, un enseignement supérieur, ça n'a pas grand sens. Surtout qu'on l'envisage comme une hiérarchie, une sorte de progression.
C'est très hiérarchique.
Alors, par exemple, simplement deux points. D'ailleurs, M. Blanquer avait bien senti qu'il y avait sans doute une utilité à relier, par exemple, le CM2 et la 6e, pour éviter le gouffre, et donc, effectivement, des échecs potentiels en 6e. Là, c'est la même chose. Entre la classe de terminale et la première année d'université, il y a un gouffre.
Donc, absolument.
Effectivement, peut-être que la tâche principale en terminale, ce serait de préparer à passer, effectivement, d'un assistanat qui est la salle de classe au lycée, a une autonomie, hein, puisque vous vous retrouvez, enfin bon, moi je sais que je l'ai vécu
aussi. Et une perte de repères.
Et une perte de repères, oui, bien sûr. Hein, subitement, il n'y a plus de tuteur à côté de vous.
On ne vient pas tous les jours le matin,
charge. Donc les échecs en première année d'université ne sont pas une fatalité. C'est une mauvaise gestion.
Ils sont liés à un système, voilà. On est d'accord.
Donc on peut faire réussir le système, mais il faut s'y prendre autrement.
Dernière question, Arnaud Benedetti.
Oh, juste une dernière question. Je veux dire, aujourd'hui, comment vous voyez les perspectives de ce mouvement qui semble aujourd'hui naître dans les universités? Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui réellement aujourd'hui peut prendre, ou est-ce que vous considérez que le risque est que finalement ce mouvement s'essouffle comme d'autres mouvements qui ont pu s'essouffler par ailleurs?
Bon, alors là, comme on dit toujours, évidemment, personne n'est Madame Soleil, donc on peut pas faire de la perspective, en tout cas sûre. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce mouvement bénéficie d'un contexte général favorable, qui s'appelle les Gilets jaunes, et tout ce qui s'est agrégé de fait, à ce mouvement, les urgentistes, les agents hospitaliers.
Il y a une séquence sociale favorable.
Ah ben, il y a une séquence sociale et politique, extrêmement porteuse. Parce qu'encore une fois, tous les objectifs ou tous les constats d'abord vont dans le même sens. C'est-à-dire, en fin de compte, on n'a pas assez d'argent pour vivre, on n'y arrive plus, voilà. Bon, et donc les objectifs, c'est d'inventer une société économiquement plus juste, une démocratie plus ouverte, voilà. Donc tout le monde vise, voilà. Mais encore une fois, l'obstacle, c'est l'individualisme. Voilà. Donc passer d'une convergence qui aura nécessairement lieu le 5 décembre, qui, de mon point de vue, pourrait être une journée historique, comme on en a connu en d'autres temps, une journée historique, parce qu'on sait très très bien que déjà la reconductibilité de la grève est prévue par les cheminots, et sans doute elle sera par beaucoup d'autres. Hein. Donc on pourrait avoir au moins un nouveau décembre 95, mais peut-être plus au-delà, parce que il y a aussi, je pense, une dimension politique très très forte dans ce mouvement, s'il n'était pas le cas en 95.
Merci Michel Fize, sociologue, auteur de Jeunesse à l'abandon, la construction universelle d'une exclusion sociale aux éditions Mimesis Sciences Sociales. Mélanie Luce était également avec nous ce matin, présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, et puis Michel Fize en parlait aussi, le mouvement Gilets jaunes, il a écrit un ouvrage, Une insurrection populaire au destin encore incertain. On aura l'occasion de revenir sur tous ces mouvements dans nos prochaines émissions, puisque je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous avec Arnaud Benedetti la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Et si on en parlait. Vous êtes sur Radio Orient, merci, à bientôt.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.